Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est donc le club des idées du grain. Ce soir, la gauche a-t-elle un problème de leadership? Marine Le Pen face à Nathalie Loiseau, la présidente du Rassemblement National face à la ministre des Affaires européennes. C'était l'affiche de l'émission politique de France 2 hier soir, comme une anticipation du duel censé dominer les prochaines élections européennes en France, le RN et LREM faisant la course en tête dans les sondages. À gauche, bien heureuse la liste qui pourra franchir la barre des 10%. Il faut dire que de ce côté-ci de l'échiquier politique, le paysage est toujours aussi morcelé, chaque formation ayant décidé d'y aller seule plutôt que groupée. Ainsi, y aura-t-il des listes du Parti communiste, de la France insoumise, du mouvement Génération ou encore d'Europe Écologie Les Verts? Et le Parti socialiste dans tout ça? Eh bien, il doit décider demain s'il se range derrière la candidature de Raphaël Glucksmann et de Claire Nouvian, tous les deux à l'origine du mouvement Place Publique, et qui viennent de décider de se lancer dans la compétition. Leur initiative est soutenue par des figures comme Martine Aubry, Anne Hidalgo, et même par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Mais suffira-t-elle cette initiative à colmater les fissures à gauche, à clarifier une offre devenue illisible du fait des rivalités entre partis et entre personnes? Et la gauche a-t-elle toujours un problème de leadership? C'est la question du soir posée à deux des membres de notre club. Géraldine Mühlmann, bonsoir.
Bonsoir, Hervé Gardette.
Vous êtes professeur de sciences politiques et de philosophie à l'Université Paris 2. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Tous les samedis, on vous retrouve sur France Culture à 12h45 pour la suite dans les idées. Vous dirigez également le site AOC, Analyse Opinion Critique. Et l'invité du club cette semaine est politologue. Il s'agit de Frédéric Savicky. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je renvoie à vos réseaux du Parti Socialiste que vous aviez publié aux éditions Belin. Alors, la semaine dernière, dans le club, on se demandait si la lettre d'Emmanuel Macron aux citoyens européens avait eu pour effet de lancer la campagne des européennes. Est-ce que vous diriez que l'annonce aujourd'hui de la liste Glucksmann-Nouvian lance la campagne à gauche, ou bien est-ce que ce serait faire peu de cas des listes qui existent déjà, celle du Parti communiste, de la France insoumise ou encore d'Europe Écologie Les Verts, Frédéric Savicky?
Ça dépend ce qu'on appelle campagne électorale. La campagne des élections européennes n'est jamais très très longue ni très passionnée. Et en plus, là, nous sommes encore dans une phase où le grand débat et l'omniprésence du président de la République et de ses ministres occupe quand même beaucoup l'attention. Donc je pense que ce qui se joue là, c'est plutôt la phase préparatoire, hein, c'est-à-dire au fond, le choix des candidats, des têtes de liste, le nombre de listes. Jusqu'à présent, il y avait une certaine incertitude, relative incertitude sur qui conduirait la liste du Parti Socialiste, avec qui le Parti Socialiste parviendrait ou non à s'allier. Il y avait l'espoir que on puisse, par exemple, englober Benoît Hamon et Génération dans l'Alliance. Il y avait de moins en moins d'espoir, évidemment, que les écologistes se joignent à la bande. Et finalement, ce sera finalement une liste très restreinte. On a récupéré Raphaël Glucksmann un peu pour montrer du côté du Parti Socialiste qu'on n'était pas complètement isolé, qu'on jouait aussi le jeu de l'Union, qu'on était capable de se remettre en question.
Vous dites, Frédéric Savicky, c'est le Parti Socialiste qui a récupéré Raphaël Glucksmann. Ça ne s'est pas fait dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est pas plutôt le mouvement Place Publique qui, certes, est à peine naissant, mais qui va récupérer un petit peu ce qu'il reste du PS?
Écoutez, pour se lancer dans une campagne électorale nationale, il faut quand même une logistique, il faut des moyens, il faut de l'argent. Le Parti Socialiste n'en a pas beaucoup, mais la Place Publique n'en a guère. Donc, de toute manière, du côté de Place Publique, ça aurait été très très compliqué de pouvoir mener une campagne seule, et en plus avec au départ quand même une thématique qui était de rassembler la gauche. Donc je pense que c'est quand même plutôt effectivement le Parti Socialiste qui fait un pas et qui, non pas annexe, mais fait une alliance avec Place Publique que le contraire.
Est-ce que c'est une surprise en tout cas de voir justement une liste qui va être donc dirigée par Raphaël Glucksmann et Claire Nouvian, sur laquelle il y aura, semble-t-il, des socialistes, même si demain ils se réunissent pour décider véritablement de la stratégie qui sera menée? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est une forme de clarification? Ou bien au contraire, est-ce que les cartes n'en sont que plus brouillées, Géraldine Mühlmann?
Je pense qu'en tout cas, ce n'est pas une clarification. Parce que tout ce que j'ai lu aujourd'hui sur les dernières semaines dit que les négociations ont été extrêmement tendues entre le Parti Socialiste et Place Publique. Et que aujourd'hui, ceux qui vont rejoindre la liste de Raphaël Glucksmann, donc de Place Publique, au Parti Socialiste, constituent une petite partie d'un petit Parti Socialiste, ce qui je crois, contribue à la confusion autour de l'avenir du Parti Socialiste, qui va finir par avaler Raphaël Glucksmann, parce qu'il a en effet encore un peu plus de moyens que Place Publique. Ou est-ce qu'il va y avoir un émiettement? On est un peu dans la même perplexité que, à l'époque, personnellement, je fais partie des gens qui n'ont toujours pas compris pourquoi, sur le fond, Benoît Hamon n'a pas pris le Parti Socialiste. C'était quand même la logique de sa victoire à la primaire. Et je dirais a fortiori quand Manuel Valls, dans la primaire socialiste, perdant de la primaire socialiste, a rejoint explicitement, a appelé explicitement à voter En Marche, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Donc il y a de la logique était vraiment qu'il prit le Parti Socialiste. Il l'a pas fait, donc on ne sait jamais qui est dedans et dehors maintenant dans cette partie de la gauche. Et je ne suis pas du tout sûre que ça lance quoi que ce soit en termes de campagne. C'est affligeant, en vérité.
Sylvain Bourmeau.
Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Géraldine Mühlmann. La logique eût voulu que Benoît Hamon prenne le Parti Socialiste. Mais j'ajouterais même à cela que la responsabilité eût voulu que Benoît Hamon le fasse. Parce que si Benoît Hamon avait pensé à un peu plus long terme, il se serait aperçu que ce qui était en jeu, c'était l'avenir d'une organisation politique ancienne et des organisations politiques. On en a besoin pour mener des campagnes, comme le rappelait Frédéric Savicky, même si on est dans cette période extraordinairement étrange dans laquelle des structures qui ne sont pas grand-chose parviennent à récupérer, en l'occurrence, la tête de liste du Parti Socialiste, ou enfin, je ne sais pas comment ça va s'appeler, de la même façon que, contrairement à tous les enseignements de la sociologie politique depuis des dizaines d'années, Emmanuel Macron est parvenu à se faire élire président de la République. C'est donc qu'on est dans un état quand même de déliquescence de l'univers politique qui permet des coups de ce type-là qui sont totalement improbables quand on connaît les investissements nécessaires, les capitaux nécessaires, qu'ils soient symboliques ou matériels, qu'il faut mobiliser pour être candidat aux élections. Et donc, je dois dire que j'avais été à l'époque très surpris par ce choix de Benoît Hamon, que je trouve extraordinairement grave, au fond, parce qu'il s'est inscrit dans une logique qu'on peut dire mouvementiste. Et au fond, la gauche n'en finit pas de payer le prix terrible de ces institutions de la Ve République qui sont écrasées par cette logique de l'élection présidentielle où on ne parle plus de politique que en termes de chef, de leader. En fait, le titre même de l'émission, il faudrait trouver à chaque fois la solution, ce serait trouver une personne. Et puis on aurait résolu tous les problèmes en trouvant la bonne personne. Donc la gauche n'irait pas bien parce qu'elle n'aurait pas trouvé la bonne personne. Je pense qu'il fallait absolument renverser complètement les choses pour reconstruire plus profondément la politique. Et c'est une organisation qu'il fallait rebâtir. Et voilà, je pense qu'on ne serait pas dans cet état encore plus déliquescent aujourd'hui si un autre choix avait été fait juste après l'élection présidentielle.
Qu'est-ce que ça dit justement, Frédéric Savicky, ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer, de l'état du Parti Socialiste aujourd'hui? C'est-à-dire on va avoir a priori donc une liste sur laquelle il y aura des membres du PS, mais ils ne seront pas tête de liste. Ce qui est quelque chose d'assez inédit dans l'histoire de cette formation politique.
Ah bah oui, c'est inédit, pas dans celle d'autres formations politiques. On se souvient par exemple que le Parti communiste, alors Robert Rue conduisait la liste, mais avait fait une liste Bouge l'Europe à une élection en 99, je crois, en 2004, pour essayer justement d'élargir l'audience électorale. Les écologistes aux européennes en 2009 avait de la même façon fait une liste de très large ouverture vers la société civile. Là, ce qu'on peut donc c'est pas forcément une stratégie aberrante que de se dire après tout on essaye de rassembler plus large à partir du moment où l'élection a lieu à la proportionnelle. Ce qui est ici curieux, c'est non seulement de laisser la tête de liste, mais de laisser la tête de liste à une organisation balbutiante, qui est essentiellement un groupe pour l'instant d'intellectuels. Bon, il y avait certes 1000 personnes au premier meeting, au principal meeting organisé, mais c'est... Il y avait la curiosité, mais c'est quand même pas beaucoup de monde. Jusqu'à présent, on n'a pas l'impression que cette organisation a réussi à essaimer sur le territoire, à déborder, disons, simplement d'un milieu essentiellement d'intellectuels. Donc c'est vrai que c'est ça qui est très curieux. Alors ça dit quoi? Ça dit effectivement d'une part que les socialistes ne se sont pas accordés pour savoir qui conduirait cette liste. Là, il y a un choix évidemment d'Olivier Faure de ne pas conduire la liste. C'est à mon avis discutable et même une erreur probablement politique parce que c'est la manière pour lui d'affirmer aussi son autorité, de montrer après tout qu'il était le chef et qu'il pouvait
se faire non seulement connaître, mais reconnaître. Donc ça, c'est vrai. Après, je pense que l'idée derrière tout ça, c'est de montrer qu'on est rassembleur, plus que les autres. Benoît Hamon va seul à la bataille, les écologistes vont seuls, la France insoumise, bon, avec l'appoint certes d'une partie de socialistes qui l'ont rejoint, mais joue un petit peu perso. Donc c'est un enjeu essentiellement de nature symbolique. Et évidemment, c'est un pari extrêmement risqué, mais fondamentalement, je dirais que le Parti socialiste est dans tel état que l'enjeu principal pour lui, c'est pas l'élection européenne. D'une certaine façon, c'est une élection qui vient au mauvais moment, c'est plutôt l'élection municipale, ce qui se passera après, et la recomposition qui opérera à ce moment-là.
Est-ce que vous seriez d'accord d'ailleurs, Sylvain Bourbon, ouais, et Géraldine Mulman, pour dire que ce scrutin des élections européennes, qui se traduit donc par toujours une forte division à gauche, hein, puisque c'est ce qu'on disait au début d'émission, il y aura quand même beaucoup de listes, même s'il y a ce rassemblement-là entre Place Publique et le Parti Socialiste, qui reste encore à être officialisé demain, mais est-ce que c'est aussi le signe qu'il y a peut-être un désintérêt, ou en tout cas que la gauche, une partie de la gauche, en tout cas, c'est peut-être pas le cas pour la France insoumise, mais a choisi de faire presque l'impasse sur ce scrutin, en sachant qu'elle est trop faible et qu'il faudra attendre.
Je voulais ajouter absolument à cette analyse, c'est-à-dire, on peut aussi lire la décision du Parti socialiste, enfin, si décision du Parti socialiste il y a, hein, parce que entre Olivier Faure et les autres, ça n'a pas l'air d'être tout à fait clair. Mais il y a un calcul, on peut très bien dire qu'il y a un calcul assez sinistre, qui rappelle que l'élection européenne n'est pas importante pour la politique française. C'est terrible, mais c'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, historiquement, il y a toujours eu des petites listes étranges, nouvelles, novatrices, atypiques aux élections européennes. Et c'est aussi la raison pour laquelle les deux personnes qu'on a un peu évoquées comme tête de liste avec beaucoup d'expérience au Parti Socialiste, c'était Christiane Taubira et Ségolène Royal, surtout Ségolène Royal à un moment donné, ont refusé. Moi, je me pose tout de même la question, est-ce que ça ne veut pas dire, pourquoi Olivier Faure refuse? Mais parce qu'ils n'ont pas envie de s'exiler à Bruxelles, et malheureusement, c'est comme cela que c'est perçu, et que s'il faut préparer la prochaine étape en France, il ne faut surtout pas être député européen. C'est tragique, mais c'est la vérité, quand même, il faut bien le dire.
Je vois que Sylvain Bourmeau fait un petit peu la moue.
Oui, parce que ça explique sans doute une partie des choses, mais à mon sens, pas l'essentiel. C'est pas tellement la nature de l'élection européenne que le calendrier, à mon sens. C'est-à-dire que je pense que, quoi qu'il se passe, la gauche, en tous les cas la gauche non mélenchoniste, va devoir avoir besoin de temps. C'est le contraire de Mélenchon, d'ailleurs, dont le temps est compté. La gauche non mélenchoniste va devoir prendre du temps pour se reconstruire. Au fond, je crois que pour comprendre ce qui se passe, toute chose égale par ailleurs, on peut essayer de comparer à la situation du milieu des années 60. Aujourd'hui, on est en 1966. On est à ce moment de la fédération de la gauche démocrate et socialiste, de la convention des institutions républicaines. On est dans une période pré-Épinay. Qu'est-ce qui a rendu possible la victoire, longtemps après, hein, en 1981, de la gauche, parce qu'elle a échoué en 78? C'est la conjonction de deux choses. La création d'une organisation politique qui fédère un certain nombre d'organisations plus petites, le Congrès d'Épinay, le nouveau Parti Socialiste, puis 69, 71. Et puis, c'est la logique de l'élection présidentielle que François Mitterrand a compris, parce que lui, il s'est présenté dès la première élection en 65. Et c'est ça qui lui permettra, finalement, d'emporter le leadership, notamment sur Michel Rocard, qui était là plus tôt dans la structure. Mais c'est la rencontre des deux, c'est-à-dire c'est la construction d'une organisation et cette logique présidentielle que la gauche a fini par épouser après l'avoir longtemps critiquée. Aujourd'hui, on est dans un moment où, pour reconstruire une organisation de ce type-là, pour la gauche non mélenchoniste, ben il va falloir, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans peut-être. Donc je crois que cette élection, elle vient beaucoup trop tôt. C'est pas seulement qu'elle est européenne, effectivement, ouais. Je suis d'accord avec Géraldine. Je suis pas sûr que ce soit un tremplin pour un futur leader que de prendre la tête de cette liste. Mais je crois qu'on peut pas condenser ce temps. Mais il faudrait l'employer autrement. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait été beaucoup plus malin pour le Parti Socialiste, par exemple, de tenter de refuser la logique du leadership en disant on se fiche de la tête de liste. Nous, on va afficher 10 personnes qui sont une sorte de shadow government parce qu'on est capable d'être l'opposition à Emmanuel Macron. C'est pas le monopole du Front National et le monopole des Républicains. Et donc, voilà, on est une équipe soudée. on est des gens compétents que vous connaissez pas forcément, qui sont là depuis un moment au Parti Socialiste.
Mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas un peu contradictoire, ça, Sylvain Bourmois, avec cette comparaison historique que vous faites, c'est-à-dire ce moment pré-Épinay, c'est-à-dire avant Épinay, il y a quand même François Mitterrand qui existe, qui va remporter la mise.
Oui, mais enfin, c'est un homme qui vient de la droite.
Oui, mais ça, la question que je voulais vous poser, c'est il serait où aujourd'hui le Mitterrand de demain, si on poursuit cette logique comparative?
Eh ben, ma réponse à ça, c'est qu'il faut surtout pas commencer par chercher ça. C'est-à-dire que, au fait, il faut refuser cette logique du leadership dans un premier temps. Sinon, aucune espèce d'organisation ne parviendra à se construire. Alors, peut-être que ce que je dis date et que la politique vers laquelle on se dirige n'a plus besoin des organisations, qu'on va fonctionner avec des mouvements qui ressemblent davantage aux partis politiques américains, même si ce sont quand même des machines et des entreprises politiques efficaces et solides. Mais en tous les cas, je pense que c'est une bien mauvaise manière de vouloir prétendre construire une organisation que de commencer par se poser la question du nom de son leader.
Frédéric Savecki.
Oui, je suis assez d'accord avec cette analyse. Dans la déclaration, le discours qu'a fait Olivier Faure lors de la présentation de l'inventaire, du bilan du quinquennat précédent et de la gauche, Olivier Faure a dit quelque chose qui était assez intéressant, qui était justement au fond de dire que ça demanderait beaucoup de temps. Hein. C'est ce que disait Sylvain, c'est-à-dire qu'au fond, les dirigeants socialistes aujourd'hui ont d'une certaine façon acté le fait que le balancier ne retournera pas automatiquement vers eux et que donc, d'une part, le Parti Socialiste n'est plus le cœur aujourd'hui de la gauche de ce qu'il en reste, donc il faut adopter une position modeste et il faut effectivement inscrire son action dans la durée. Et je pense que la priorité stratégique est plus centrée sur la préparation des élections municipales et le travail effectivement de rassemblement progressif et surtout de regain de la confiance. Et évidemment, ça, je pense que autant il pouvait y avoir l'illusion dans la défaite que les choses se réagencerait favorablement. Or, aujourd'hui, effectivement, même 2 ans après l'élection, le Parti Socialiste, dans les intentions de vote, reste à 6, 7, 5%. La cote le crédit du parti reste très, très faible. Et donc, au fond, je pense que cette élection européenne, elle arrivait mal parce qu'elle était assez, au fond, perturbante dans ce calendrier. Et donc, s'allier et confier la tâche à quelqu'un d'autre, à une autre organisation, c'était assez confortable. Alors, ceci dit, pour revenir sur ce que disait Sylvain sur le modèle de ce qui s'est passé dans les années 60, l'histoire ne se répétera pas. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un grand changement. D'abord, c'est l'émergence de l'écologie politique qui n'existait pas dans les années 60. C'est aussi le fait qu'il existe aujourd'hui un électorat de centre-gauche attiré par le libéralisme et au fond qui n'est plus du tout convaincu effectivement que le socialisme soit l'horizon à travers l'intervention de l'État dans l'économie, la recette. Donc il faut réinventer ça. Et puis évidemment l'enjeu européen qui est devenu un élément profondément diviseur. Et c'est aussi peut-être pour ça que c'est bien de faire l'impasse sur les élections européennes, parce que c'est sans doute pas à cette occasion-là qu'on peut rapprocher ceux qui veulent s'affranchir des traités européens et ceux qui restent fidèles à une logique de solidarité européenne en dépit de tous les inconvénients que cela comporte en matière économique, financière et sociale.
Alors sur la question justement de l'écologie politique, c'est vrai que ça c'est un changement majeur hein, évidemment par rapport aux années 60. Laurent Geoffrin, le directeur de Libération, qui fait ses éditoriaux quotidiens dans son journal et qui évoquait le cavalier seul des écologistes pour ces élections européennes et de son leader, de sa tête de liste Yannick Jadot, il faisait le constat, alors c'est ce qu'il écrit, le logiciel social-démocrate a laissé de côté le rapport à la nature qui est pourtant en passe de dominer pour les années à venir toute action politique. Au-delà du leadership des personnes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'un discours à gauche qui ne soit pas qu'un discours social, mais qui prenne en considération ces questions écologiques? Et si on doit le trouver quelque part, est-ce qu'il faut davantage se tourner du côté d'Europe Écologie Les Verts ou davantage du côté de la France Insoumise, si on se souvient que cette question de l'écologie et de l'environnement était au cœur du programme de Jean-Luc Mélenchon en 2017, Géraldine Mulman?
Écoutez, si j'en crois ce que je vois dans Paris aujourd'hui même, avec toute cette jeunesse qui était extrêmement joyeuse d'ailleurs, je l'ai vue, très, très bruyante, mais au bon sens du terme, dynamique, énergique, qui a manifesté. comment dire, pour la planète, on va dire. Si j'en crois les propos d'Emmanuel Macron qui ont tant fait de bruit, et positivement aussi, make your the planet great again, et si j'en crois en effet les programmes de France Insoumise depuis plusieurs années, ce que je pense que la question de la nature va intéresser absolument tous les partis politiques, gauche et droite confondus, dans les 20 prochaines années. Ce qui pose la question de la spécificité de la liste écologie Les Verts.
Ça pose aussi peut-être la question de cette séparation entre la droite et la gauche, même si c'est un vieux débat
absolument.
Chez les écologistes.
Je pense que tout est refondu, parce qu'il y a une jeunesse mondiale qui demande à tout le monde de réfléchir à cette question. Donc ils vont s'opposer sans doute sur les moyens, mais tout le monde va se dire écolo. Je vois pas quel mouvement pourra assumer une indifférence écologique. Ça me paraît impossible. Le problème, c'est que pour ce qui est de l'élection européenne, je reviens tout de même à la spécificité de ce scrutin, je crois que c'est important, les écologistes, ils font historiquement leur meilleur score à cette élection. Donc il y a une logique aussi de la part de Yannick Jadot à dire, voilà, c'est nous pour le coup, c'est notre élection.
Alors, parce
c'est
que le pas mode de scrutin, tout, voilà, les favorise.
Voilà, donc c'est... Et puis, au niveau européen, il y a un vrai groupe, enfin je veux dire, pour le coup, si on considère, là je pense qu'ils ont raison, que les enjeux écologiques, ils sont collectifs par essence, il faut peser absolument au niveau européen. Donc ça fait sens. Ce que je voudrais juste dire, c'est que le problème du discours écologique, dans ce sens, le fait qu'il va se répandre comme ça, c'est qu'il va aussi abriter un peu tout le monde. Et Laurent Geoffrin, que vous citez, a fait aussi un autre éditorial qui m'a perturbée, je dois dire, parce qu'il touchait un point très juste. Enfin, en tout cas, je lui fais confiance. La numéro 2 de la liste écologiste est une militante anti-vaccin, si j'en crois ce que dit Laurent Geoffrin, qui écrit rarement les choses sans avoir vérifié.
C'est Michel Verivasi, je crois. Hein. Voilà.
Donc ça veut dire qu'on se retrouve aussi avec des personnalités.
On peut dire qu'elle est très hostile au vaccin.
Ce que disait Laurent Geoffrin, bon, était très, très, très militante. Ça veut dire le discours sur la nature, aujourd'hui, il est à la fois partout, et il est varié dans les dogmatismes et dans les implications. Vous avez des discours quasi religieux sur la nature. Vous avez des discours anti-vaccins qui sont, enfin, anti-science, quoi, anti-raison, anti-santé publique, une façon de réécrire l'histoire dans l'autre sens, quoi. Les vaccins, ils ont sauvé des millions, des milliards, des millions de gens. On est en train de réécrire l'histoire dans le sens. Sur la cause animale, c'est pareil. Il y a des gens qui ont soutenu ces questions il y a très longtemps, Elisabeth de Fontenay, bon, qui disent aujourd'hui on est complètement débordé par des gens qui ont un rapport à l'animal qui est antispéciste, qui est extrêmement. Moi, je pense qu'il y a une vraie cause animale. Enfin, mais il n'est pas question de se la faire confisquer uniquement par certaines catégories de gens. Je pense que sur les sujets nature, il y a aujourd'hui de nouvelles fractures qui apparaissent. Et que ça complique la donne pour tout le monde, et singulièrement pour une liste écologiste où, par exemple, moi je vous dis franchement, la numéro 2 très anti-vaccin, je vais quand même vérifier les choses, mais je suis convaincue qu'il y a pas mal de gens qui vont réfléchir à deux fois alors qu'ils s'apprêtaient à voter écolo assez sereinement, puisque il y avait une logique et puis ça correspondait bien à leurs idées.
Voilà, et sans vouloir défendre absolument Michel Ravasi,
comme
qui est aussi Géraldine
Mühlmann, voilà. Je vais vérifier aussi parce que ça me semble extraordinairement important et dangereux.
Juste pour Michel Rivasi, voilà. En tout cas, moi, je l'avais reçu dans le cadre du Grain à Moudre. On avait fait une émission sur les vaccins, et c'est vrai qu'en tout cas, elle considère que la vaccination obligatoire pourrait être remise en cause dans un certain cas, que ça n'est pas forcément toujours utile dans tous les cas. Par ailleurs, c'est une militante de longue date de l'écologie, enfin qui est tout à fait légitime à se retrouver sur une liste Europe Écologie Les Verts. Elle n'arrive pas de nulle part. Sylvain Bourmeau.
Pour répondre à votre question, Hervé, qui au fond pose la question de savoir quel système de parti va occuper l'espace politique dans les années à venir. On sait historiquement que le surgissement de questions, de grandes questions, que ce soit la question républicaine, la question sociale, ont à chaque fois complètement remembré la vie politique. On a vu des partis. Comment c'est rendu possible, ça ? C'est rendu possible par des modes de scrutin qui ont pour effet d'éliminer des partis qui deviennent minoritaires. Des modes de scrutin Certains d'entre eux sont très efficaces pour ça. Je pense au mode de scrutin britannique, parce que en gros, il peut y avoir que deux partis qui se font face. Donc, si vous avez trois représentants qui portent des questions différentes, il y a une question qui se trouve évacuée champ politique à un moment donné. Donc, là, vous aviez la gauche était représentée par des libéraux face à des conservateurs. Bon, ben, le travailliste arrive, les libéraux pèsent plus grand chose et ils sont face à ces conservateurs.
Et on voit comment le Parlement britannique fonctionne bien en ce moment. Hein.
La question qui se pose en France. Là maintenant, c'est une question qui est déjà ancienne, hein, qui est de savoir si, au fond, la question écologique va structurer de manière prioritaire la vie politique davantage que la question sociale. Et si, d'une certaine façon, le parti écologique va supplanter le parti socialiste, pour le dire autrement, ou les partis qui portent la question sociale. Le Parti socialiste sait que ça lui pend au nez depuis longtemps et évidemment essaye de verdir, comme la France insoumise a verdi aussi son programme. Parce que bon, mais au fond, en France, on n'a pas un mode de scrutin aussi qui produit des effets aussi drastiques qu'en Grande-Bretagne, mais quand même, c'est-à-dire le mode de scrutin de l'élection législative et l'élection présidentielle, il élimine aussi en grande partie. On sait que normalement, il fait qu'existe dans à gauche deux partis, à droite deux partis, grosso modo. Donc la question qui se pose là maintenant, c'est que s'il y a la France insoumise, le Parti socialiste et les écologistes, ça fait un de trop par rapport au mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Donc lequel des trois dégage ? Là, l'élection européenne va pas trop nous aider à répondre parce que c'est un mode de scrutin à la proportionnelle. Donc finalement, c'est pas ça qui va trier immédiatement. N'empêche que l'ordre d'arrivée des listes va jouer. Et donc le pari que fait Jadot, c'est de sortir de cette élection en position de force, sachant qu'effectivement l'historique plaide pour lui à propos des résultats des Verts dans cette élection. Mais il espère sans doute sortir tellement plus haut que le Parti socialiste qu'il pourra dire et que les observateurs noteront que désormais la question écologique a supplanté la question sociale. Donc, en tous les cas, les deux forces qui comptent à gauche, ce sont d'un côté la France insoumise, de l'autre le Parti écologique, et que le Parti socialiste disparaît dans cette histoire. Au fond, c'est ça qui est en train de se jouer.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Savicky? C'est-à-dire au moins un enjeu à gauche de ces élections européennes, c'est de clarifier, en tout cas peut-être de modifier le classement du leadership en affichant ce autour de qui va se structurer la recomposition de cette gauche.
Oui, c'est pour ça que le Parti socialiste est très mal à l'aise par rapport à cette élection. C'est que l'élection européenne, comme elle est la proportionnelle, et qu'en plus le mode de scrutin a été modifié pour que désormais on vote dans un cadre national, il est clair que ça favorise, disons, les listes qui ont un programme tranché, marqué, et qui peuvent effectivement, on pourrait dire, s'appuyer sur une niche électorale. En plus, évidemment, les Verts, par rapport à ça, apparaissent à cette élection comme, au fond, une espèce de grand lobby européen qui permet de faire pression sur une politique au niveau européen qui est à la fois orientée par une espèce d'alliance entre les sociaux-démocrates et les libéraux et les chrétiens-démocrates. Donc, effectivement, beaucoup de gens à gauche vont voter. Ce qui ne veut pas dire du tout que ce vote sera reproduit à une élection nationale, parce qu'évidemment, on voit toujours cet effet de balancier. Donc, pour l'instant, évidemment, les Verts et la France Insoumise sont en lutte pour savoir qui est, au fond, provisoirement le leader à gauche. Mais il est clair que derrière, il y a quand même, on pourrait dire, des bases d'implantation qui sont autres. Le Parti socialiste dispose toujours quand même de députés, de sénateurs, de maires, de conseillers généraux, de conseillers régionaux en nombre bien plus important que non seulement les Verts, mais aussi que la France insoumise. Et donc, évidemment, tout ça, ça sera une manière pour les élections municipales de pouvoir peser pour ces partis, pour réclamer, en quelque sorte, une place dans l'alliance qui se dessinera. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas penser cette élection, on pourrait dire, indépendamment des autres. Alors, sur les questions écologistes, simplement, je pense que le mouvement des gilets jaunes nous montre à quel point, évidemment, la gauche ne parviendra pas à reconquérir sa base électorale traditionnelle, c'est-à-dire les classes populaires et une partie des classes moyennes, s'ils ne sont pas capables de concilier les deux objectifs. Le rejet, quand même, au départ de la fiscalité écologique jugée comme injuste est à l'origine de ce mouvement des gilets jaunes et a été quand même une prise de conscience, y compris chez les écologistes, principalement chez les écologistes, du fait qu'on ne pouvait pas continuer à réclamer simplement une hausse de taxes, mais qu'il fallait effectivement remettre à plat complètement la fiscalité écologique.
Et cette conciliation, vous ne la voyez entre l'écologie et le social, vous ne la voyez voyez ni chez Europe Écologie Les Verts, ni au sein de la France Insoumise.
Si, la France Insoumise essaye aujourd'hui justement de jouer beaucoup là-dessus et a un avantage, on va dire, stratégique. Les socialistes, ils ont leur bilan assez terne, voire négatif en la matière. Les écologistes, faut pas l'oublier quand même, sont associés à la politique qui a été menée au moins jusqu'en 2014, voire au-delà, dans l'esprit des Français, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même alliés dans cette politique gouvernementale, ils n'apparaissent pas comme ayant un bilan très élevé. Donc effectivement, là-dessus, il y a une lutte plutôt entre la France insoumise et les écologistes pour montrer qui est le plus crédible en la matière, c'est-à-dire dans la matière de concilier le social et l'écologie. Donc je pense que c'est l'enjeu essentiel, parce qu'effectivement, cette crise, en tout cas en France, a révélé le fait que, jusqu'à présent, toutes les politiques menées, finalement, se faisaient au détriment des plus modestes, de ceux qui avaient le moins de revenus, qui, effectivement, avaient deux voitures, habitaient loin des centres-villes, n'avaient pas de marge, pour échapper à une forme de consommation d'énergie dont ils étaient très dépendants. Et là, on touche, effectivement, au cœur, d'un problème de classe sociale, entre ceux qui vivent en ville et qui peuvent disposer de transports en commun ou pouvoir recourir à des transports, relativement doux, qui n'ont pas de problème en quelque sorte majeur de mobilité, et ceux qui sont prisonniers par ça. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement nouveau qui peut devenir effectivement un nouveau clivage, pas simplement écologiste, mais social-écologique, sur lequel on pourrait dire la gauche peut se reconstruire.
Géraldine Mellemann.
Alors, je suis très contente, on arrive au point précis en termes d'idées qui est quand même la raison profonde pour... Je crois, pour laquelle la gauche va très très mal, et ça couvait depuis un certain temps, mais alors là, maintenant, c'est terrible. Le point, ce point très important, c'est que il est acquis par la plupart des gens de gauche, sauf France Insoumise, il faut bien le dire, que cette dette que les Français, comme d'autres peuples, ont contracté à un moment donné, pas seulement et même pas du tout parce qu'ils étaient trop dépensiers de leur état dans les dépenses quotidiennes. C'est pas ça qui s'est passé. Il y avait sans doute un bon train de vie, mais il y avait une dette qui venait de la crise des subprimes, puis de la crise des banques. Les banques ont été sauvées par les États, et tout le monde s'accorde à dire que c'est ça qui a creusé d'un coup, de manière massive, la dette. Et comme il y a un souci unanime de la rembourser, doublée d'une restriction budgétaire imposée par l'Europe, ça aussi, il faut bien le dire, on peut pas faire une politique de relance comme on veut, on se retrouve à faire payer à plein de gens cette situation, puisque ça impose une pression fiscale et des baisses de dépenses. En réalité, les gens s'étripent un peu pour savoir quel est le bon dosage, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut maintenir une pression fiscale et baisser les dépenses. Et donc, la gauche, dont le fond de commerce idéologique, ça c'est mal dit, mais disons la colonne vertébrale était d'avoir une puissance publique qui pouvait intervenir dans l'économie, qui pouvait se donner des marges de manœuvre, aussi bien pour la relance économique, mais c'est très important, pour les inégalités, pour lutter contre les inégalités, elle a plus cette marge de manœuvre. Et comme personne n'arrive à dire de manière assez décontractée, il faut qu'on réfléchisse au problème de la dette autrement, il n'y a personne dans les partis qui le disent. Bon. Et puis, comme plein de gens encore ce matin, Raphaël Glucksmann, disent « Mais moi, de toute façon, je suis européen, point barre. » C'est-à-dire, nous sommes tous européens. Moi, je vous rassure, je suis très européenne. Mais il y a un problème, si vous voulez. On ne peut pas être de gauche aujourd'hui et donner un blanc-seing à l'Europe. On est dans une critique nécessaire de l'Europe au nom d'une certaine idée de l'Europe. Comme personne ne s'aventure, même si on dit on parle d'idées, en fait, personne ne va sur ces sujets très sérieusement, eh bien, voilà la situation. C'est-à-dire qu'en fait, on dit « Je parle des idées, mais personne ne parle des idées, car les idées sont très difficiles à traiter. »
Il nous reste à peine 5 minutes de discussion, et je rappelle la question qu'on posait ce soir, c'est-à-dire est-ce que la gauche a un problème de leadership, ce qui renvoie quand même toujours à citer certains noms. Il y en a deux qui, sauf erreur de ma part, n'ont pas été évoqués ce soir. Deux François, quand on s'appelle François en politique et qu'on est plutôt à gauche, a priori on peut être destiné à des choses assez intéressantes. Il y en a un justement qui a été président de la République, c'est François Hollande, qu'on entend quand même assez régulièrement. Alors, est-ce qu'il va faire son retour? Il semblerait qu'il s'y prépare. C'est peut-être le seul, d'ailleurs, à y croire. Et puis, il y a un autre François à qui on commence à poser cette question. Est-ce que vous seriez prêt à devenir président de la République? C'est François Ruffin. Est-ce que ces deux François, ils peuvent incarner quelque chose à gauche? François Ruffin et François Hollande, aujourd'hui, Frédéric Savicky.
Écoutez, je ne lis pas dans les boules de cristal. C'est vrai.
En tout cas, qu'est-ce qu'ils incarnent aujourd'hui, disons.
Disons que ce qui s'est passé, ce qu'évoquait tout à l'heure, rappelé Sylvain Bourmeau en 2017, c'est la victoire par intrusion, par effraction de quelqu'un qui était complètement un outsider politique, montre à quel point notre vie politique est devenue fluide. Hein, c'est-à-dire que les électorats ne sont pas stabilisés, les gens changent leur vote, pas forcément d'un extrême à l'autre, mais enfin en tout cas ne sont plus du tout de moins en moins fidèles électoralement. Donc après tout, en plus avec cette omniprésence du Front National qui pèse sur les comportements électoraux, qui pousse au vote utile, bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. François Ruffin peut l'emporter, on va dire, au premier tour, être face à un candidat du Rassemblement National, et puis, je ne sais pas, moi, face à un émiettement de candidature, hein, François Hollande, y compris avec 13%, pourrait, je ne sais pas, enfin, on ne peut pas savoir. Hein, c'est pour ça. Alors, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est plutôt de partir de l'idée, justement, de cette fluidité, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va demeurer? Est-ce que après l'épisode Emmanuel Macron, les Français dans leur majorité vont redescendre en quelque sorte un peu sur terre en se disant bon bah on va quand même pas voter, on va pas de nouveau choisir un aventurier mais prendre quelqu'un qui nous rassure et quitte à revenir vers le passé ou au contraire se dire qu'il faut renverser la table et pas forcément prendre Marine Le Pen qui en sera à sa troisième élection mais un jeune journaliste brillant, talentueux, populiste dans son style. Bon, en fait, genre, on peut pas savoir. Ce que je pense moi quand même, c'est que oui.
Vous mouillez pas trop là. Hein.
Non mais c'est
normal.
Parce que mais on peut pas savoir. Non mais on peut pas savoir. Qui vous m'auriez demandé 3 ans avant si un ancien banquier devenu conseiller à l'Élysée allait devenir président, j'aurais rigolé au nez en me disant bah vous plaisantez. Ça se passe pas comme ça. Donc on n'en sait effectivement rien. En revanche effectivement je pense que ce qui est en train de se passer quand même avec les gilets jaunes, j'y insiste, hein, c'est quand même un retour au premier plan de valeurs, de questions sociales, de la question de la justice sociale, de l'égalité, de la question de la fiscalité, de la question des services publics, la question effectivement d'une nouvelle politique écologique. Et ça, si les partis de gauche, si les mouvements de gauche sont pas capables de se fédérer, de porter une candidature dans une organisation, ça pourrait se faire à travers des élections primaires qui choisiraient à ce moment-là le meilleur ou la meilleure candidate pour conduire ça, et porter un programme faut dire en rupture avec ce qui s'est fait par le passé, eh ben c'est effectivement là c'est mal barré parce que la gauche est pas prête de revenir au pouvoir, c'est-à-dire que donc là il y a une occasion historique à saisir. Moi je pense que cette occasion peut être plus forte que les acteurs et que les appareils.
Sylvain Bourbeau, vous avez une minute pour conclure.
J'insisterai sur cette fluidité dont parlait Frédéric Savicky parce que il prenait l'exemple qui aurait pu dire que Emmanuel Macron devienne président de la République quelques mois simplement avant l'annonce de sa candidature. Encore une fois, c'était extraordinairement improbable. Eh bien, de la même façon, qui aurait pu dire il y a 4 mois, 5 mois que Raphaël Glucksmann allait prendre la tête de liste du Parti Socialiste? Donc, je crois qu'on est toujours dans cette fluidité, peut-être encore plus même qu'avant l'élection présidentielle. Donc, je me garderai bien de prévoir quoi que ce soit compte tenu de ce fait. C'est-à-dire que on est dans une situation quand même qui ressort du jamais vu au plan politique. Je pense que des inerties habituelles ne sont plus à l'œuvre et que nous sommes à la merci de coups politiques qui peuvent être tentés ici ou là par certains. Et que ça laisse présager beaucoup beaucoup de choses extraordinairement différentes pour le meilleur, mais peut-être pour le pire aussi.
Eh bien merci Sylvain Bourmeau, Géraldine Mühlmann et Frédéric Savicky d'avoir participé à cette discussion depuis le Salon Livre Paris en direct et en public. La discussion que vous pouvez réécouter et télécharger sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richet, Antoine Tricot, Léa Capuano, Cyril Marchand, émission réalisée par Peyre et Legras avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan et Sébastien Huel, chargé de production Rémi Gouriot. Dans un instant, toujours au Salon Livre Paris, vous allez retrouver Arnaud Laporte et la dispute, n'est-ce pas Arnaud ?
Oui, j'essayais de vous surprendre, d'arriver dans votre dos,
effectivement,
Hervé Gardette, pour savoir de quoi vous allez parler demain dans Politique à midi, par exemple.
Demain, toujours au Salon Livre Paris, nous allons parler de l'effondrement, de la collapsologie, avec un de ceux qui en parlent le mieux aujourd'hui en France, c'est Pablo Servigne. Voilà, demain, midi, rendez-vous ici au Salon Livre Paris.
Est-ce que Sylvain Bourmeau sera là demain aussi?
Oui, un quart d'heure après Hervé, je serai là avec Sarah Almatari. On parlera d'anti-intellectualisme et ce sera aussi avec Lionel Ruffel.
Dispute cinéma dans 3 minutes, mais pour l'heure, on retourne du côté de la maison de la radio. Nous attend Benoît Bouscarel pour les titres de l'info.